Abraham, notre père dans la foi et la foi d'Israël. Alors déjà, si on lit cet intitulé, on va vraiment se dire que ça va nous demander un acte de foi, croire qu'en moins de 45 minutes, on puisse récapituler toute l'histoire de l'Ancien Testament. Alors vous pouvez bien penser que ça sera dans les très grandes lignes. Et nous allons nous attacher, en suivant l'encyclique, à la figure d'Abraham. Et cette figure d'Abraham, elle est très importante. Alors si on regarde le numéro 7, qui se termine par une question, comment est-elle cette route que la foi en trouve pour nous ? Eh bien, nous allons voir que la réponse, elle va se faire par l'intermédiaire justement de cette figure, celle d'Abraham, puisqu'il va parcourir, alors avec d'autres à sa suite, la route des croyants, la route de la foi. Mais on peut d'abord se demander pourquoi une place particulière est-elle réservée à Abraham ? Alors oui, on va se rendre compte qu'il a parcouru au sens propre la route de la foi, il va partir, il va se mettre en route. Mais on peut dire aussi, il y a beaucoup d'autres belles figures de croyants dans la Bible. On peut citer Moïse, on peut citer David, on peut citer Salomon, il y en a beaucoup d'autres. Et puis on peut aussi en citer d'autres avant lui qui ont cru. Il y avait par exemple Abel, après la chute, il y a aussi Noé. Alors pourquoi cette place de choix concernant Abraham ? Alors elle s'explique par le rôle que Dieu va lui destiner dans l'histoire du salut et par le fait qu'il a correspondu à l'élection divine. Alors ce n'est pas un hasard, s'il est évoqué à plusieurs reprises dans l'Écriture sainte, c'est vraiment une figure qui parcourt toute l'histoire de la Bible. Déjà dans l'Ecclésiastique, on va lui accorder une large place et on va lui dire que nul ne lui a été égal en gloire, dans le chapitre 44. Dans la lettre aux Hébreux également, on va vanter la foi exemplaire d'Abraham au chapitre 11 et on va voir un petit peu comment sa foi s'est mise en pratique. Et puis aussi tous les épîtres de saint Paul qui vont évoquer sa place. Alors nous allons voir dans cette intervention comment sa réponse à Dieu a eu des conséquences non seulement pour lui-même, pour sa propre vie, mais pour toute sa descendance, pour le peuple d'Israël qui va naître de sa foi. Alors, on ne va pas trop se compliquer, on va faire une intervention en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir donc la figure d'Abraham, et après, nous verrons la foi d'Israël, de ce peuple qui va naître de la foi de ce patriarche. Alors, on va se fonder, bien sûr, sur l'encyclique, Lumen Fidei, pour suivre un petit peu le parcours d'Abraham, mais aussi, comme c'est assez riche, on va se plonger dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, pour récapituler un petit peu les différents épisodes de sa vie. Alors, dans la Genèse, nous avons les chapitres 12 à 25, qui nous rapporte l'histoire d'Abraham. Et on va se rendre compte avec différents moments de sa vie que la foi, c'est quelque chose de concret. C'est pas une simple théorie, on se dit au début de sa vie, voilà, je crois en Dieu, et puis c'est bon, je continue à mener ma petite vie bien tranquille. On va se rendre compte que chez Abraham, justement, différents épisodes vont lui demander de manifester sa foi de façon très concrète. Alors nous verrons avec quatre moments, quatre points. Premier point, nous allons nous intéresser à l'appel d'Abraham, à la manière dont Dieu va se servir de lui et à la façon dont il va le choisir. Et déjà, rien qu'avec cet appel, on va se rendre compte que plusieurs aspects de la foi en Dieu nous sont donnés. Et nous allons nous intéresser à deux aspects de la foi en Dieu. Tout d'abord, dans le numéro 8 de l'encyclique, on se rend compte que cet épisode de l'appel d'Abraham est présenté, je cite, « comme un fait bouleversant. Dieu lui adresse la parole, il se révèle comme un Dieu qui parle et qui l'appelle par son nom. » Alors, on le voit dans la Genèse, au chapitre 12, au verset 1, nous avons « Dieu dit à Abraham ». Alors, je mets tout de suite au point le fait que dans l'histoire d'Abraham, on a l'histoire d'un homme qui va changer de nom. Au début, il s'appelle Abraham, et après, on verra qu'il va s'appeler Abraham. Et ce changement de nom va avoir une signification, donc on le verra tout à l'heure. Donc, Abraham, alors, tout simplement, je crois que vous n'avez pas compris. Abraham, je vais vous l'épeler, A-B-R-A-M, et ensuite Abraham, comme nous le connaissons, A-B-R-A-H-A-M, voilà. Donc tout d'abord, c'est Abraham. Et ça fait vraiment partie de la splendeur de notre foi, de croire en un Dieu qui n'est pas loin de l'homme, mais qui au contraire va se pencher vers sa créature. Et de cette façon, on se rend compte avec cette histoire d'Abraham que la foi prend un caractère personnel. C'est Dieu qui porte un regard unique sur chacun de nous, qu'il appelle par son nom. Alors ce qu'il a fait pour Abraham, il le fait aussi pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, il se penche sur nous, il nous appelle par notre nom. Et ça se comprend parce que c'est le Dieu Trinité qui vit dans l'intimité des trois personnes. Et cette relation, ce contact entre les trois personnes, eh bien, elle va s'épancher et il va aussi nouer un lien particulier avec sa créature. Alors on peut dire que le Seigneur, eh bien, c'est le Dieu d'une personne, de chacun d'entre nous. Et précisément, c'est lui-même qui s'appelle comme ça, il va se présenter à Moïse. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc en prenant comme ça le nom de sa créature, il veut bien signifier qu'il veut établir avec chacun d'entre nous une relation personnelle. Donc on peut déjà dire, dans ce premier aspect de la foi en Dieu, eh bien que la foi elle va être une réponse à une parole qui va nous interpeller personnellement, à un « toi » qui nous appelle par notre nom. Et donc, c'est le cas de chacun, pour chacun d'entre nous. Donc, premier aspect de la foi qu'on peut déduire de l'appel d'Abraham. Et puis, deuxième aspect qu'on peut mettre en relief, c'est que la foi est liée à l'écoute. En effet, on parle souvent de l'obéissance d'Abraham qui va accepter ce que Dieu va lui demander, qui va répondre à son appel. Eh bien, ce n'est pas sans raison qu'on utilise le terme d'obéissance. Parce que si on s'intéresse à l'étymologie, le verbe « obéir », il est formé sur le verbe latin « audire », qui veut dire écouter, entendre. Et donc, la foi, c'est bien ça, c'est entendre une parole, entendre un appel, et se soumettre librement à cette parole écoutée, à cet appel pour chacun d'entre nous. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà dans cet appel d'Abraham. Donc un Dieu personnel qui nous appelle, et on l'écoute, et on va y répondre librement. Deuxième point, que nous allons voir dans l'histoire d'Abraham, deuxième moment de sa vie dans lequel il va mettre en pratique la foi, eh bien c'est la foi par laquelle il va quitter son pays, il va émigrer. Alors, c'est une réponse concrète à l'appel divin qui va avoir des répercussions sur toute sa vie. En effet, Dieu ne se contente pas de lui dire « Abraham, Abraham » et puis voilà. Il va l'appeler pour lui demander quelque chose de précis. Si on regarde le verset 1 de la Genèse, au chapitre 12, il lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » Donc cet appel de Dieu, c'est un appel à sortir de sa propre terre. Et là, je reprends l'expression du numéro 9 de l'encyclique. Et donc cet appel va supposer un vrai déracinement, un pas en avant à accomplir, et une vraie générosité de la part du patriarche. Et puis aussi, comme Dieu nous demande aussi des choses comme Abraham, répondre dans la foi, ça va aussi nous demander une vraie générosité. Mais Abraham, il ne discute pas. Sa réponse, elle va être une action. À l'appel de Dieu, on a sa réponse en acte. Abraham, parti. Il n'y a pas d'objection. Il ne va pas se dire « Ah, mais j'y connais rien », etc. Et sa foi, sa réponse, elle est d'autant plus grande qu'il y a pour deux raisons notamment qui vont montrer sa générosité. Première raison, c'est son âge au moment de partir. Alors on pourrait se dire, c'est pas quand même difficile de partir, c'est même quand on est jeune, c'est une opportunité, voilà, on va faire un petit séjour linguistique 2 mois en Nouvelle-Zélande, on prend l'avion, c'est parti, c'est bien. Mais seulement, quand on regarde dans la Bible, l'écriture précise, Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Alors là, tout de suite, ça demande une autre forme de générosité. Et sa foi va être vraiment l'expression concrète de sa réponse à Dieu. Donc, première raison qui montre que sa foi est grande. Deuxième raison, c'est le fait qu'il ne sait pas où il va. Dieu lui a pas dit, voilà, tu vas partir pour la terre promise, c'est exactement ici. Non, il lui dit, pour le pays que je t'indiquerai. Quand il l'appelle, il ne lui a pas dit c'est quel pays. C'est l'utilisation du futur. Il ne lui a pas encore montré. Et bien là, c'est pareil. Ça demande une très grande générosité. Nous, aujourd'hui, on veut se faire un petit circuit. Roubaix, Perpignan, on va sur Internet, on tape départ, arrivée, consommation d'essence, péage, voilà. Tout est sécurisé. Eh bien, dans le cas d'Abraham, c'est absolument pas ça. Ça va lui demander aussi une très grande générosité. Il va croire en la promesse divine et il va partir avec un exode, au sens propre du terme, qui va le conduire vers un avenir insoupçonné. Pour le moment, il ne sait absolument pas à quoi il va s'attendre. Et on peut faire ici peut-être un petit parallèle avec l'histoire d'Adam et d'Ève. Eux, ils ont voulu choisir par eux-mêmes ce qui était bon pour eux. Et bien ici, Abraham, il se soumet tout simplement, humblement, il accepte d'être conduit vers celui qui sait où ils veulent mener. C'est pas moi qui décide, je préfère partir dans ce pays-là plutôt que dans l'autre. Dieu, tu me demandes de partir et je me laisse conduire par toi. Alors, donc on a vu ici, dans cette foi par laquelle il va quitter son pays, sa réponse de manière concrète avec sa grande générosité. Mais on se rend compte que dans la Genèse, cet appel à quitter son pays, il est aussi assorti d'une promesse. Dieu lui dit « pars », mais lui dit aussi « je ferai de toi un grand peuple et je te bénirai ». Donc, cet épisode de la vie d'Abraham qui quitte son pays et qui va recevoir cette promesse, elle va nous révéler trois enseignements sur la foi. Nous allons voir assez rapidement. Premier enseignement. Bien, nous avons vu que la foi, elle était liée à l'écoute. On entend l'appel de Dieu et on décide d'y répondre. Mais on va voir que la foi, elle est aussi liée en quelque sorte à la vision, à quelque chose qu'on ne voit pas encore. Abraham, il n'a pas vu ce pays. Il ne voit pas cette descendance nombreuse. Mais il va quand même agir comme s'il les voyait. Il va partir vers un pays qu'il ne voit pas, donc c'est un paradoxe, il voit en même temps, il ne voit pas. Et puis, il va voir en quelque sorte cette postérité que pour le moment, il ne voit pas. Donc, premier enseignement, c'est lié aussi à la vision. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cet acte de foi d'Abraham, qui va partir en croyant à la promesse, c'est que la foi est un acte de mémoire. Donc, cette mémoire, elle ne fixe pas dans le passé pour dire « voilà, j'ai fait ça », en étant seulement quelque chose de passé, mais elle va être capable d'ouvrir vers l'avenir. La foi va croire en ce qui est promis et qui va ainsi devenir concret. Donc quand Dieu lui dit « je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer », eh bien concrètement, c'est ce qui a été dit va se réaliser. Et le caractère concret de la promesse va se voir dans le fait que Abraham va changer de nom. Donc de Abraham, le nom qu'il avait, Dieu va lui dire « on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham ». Et ça a une signification, car Abraham, ça veut dire « père d'une multitude ». Donc, de manière concrète, sa foi, voilà, elle va se faire mémoire de cette promesse de Dieu qui va s'incarner avec cette multitude de descendance que Dieu va lui donner. Et puis, troisième enseignement qu'on peut voir dans cet acte de foi d'Abraham qui quitte son pays, qui croit en l'appel de Dieu, c'est qu'il pose un acte de confiance. C'est ce qui est expliqué dans le numéro 10 de l'encyclique. Je vais vous lire ce passage. La foi comprend que la parole, qui est une réalité apparemment éphémère et passagère. On a l'expression « la parole passe, mais les écrits restent ». Donc cette parole, on peut croire que c'est passager, c'est éphémère. Mais, et c'est là que tout change, quand elle est prononcée par le Dieu fidèle, elle devient ce qui peut exister de plus sûr et de plus inébranlable. La foi accueille cette parole comme un roc sûr, des fondations solides sur lesquelles on peut édifier. Donc c'est ça la foi qui va poser cet acte de confiance. C'est le fait qu'on se remet entre les mains de Dieu qui est la vérité même. On le dit ça dans l'acte de foi. Dieu qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper, ni nous tromper. Donc voilà un petit peu les enseignements qu'on peut tirer de ce moment d'Abraham. Il quitte son pays et il croit en la promesse que Dieu va lui donner, que Dieu lui a faite d'une descendance nombreuse. Et maintenant, troisième point dans l'histoire d'Abraham, on va voir justement concrètement comment va s'accomplir cette descendance. Et donc la foi par laquelle il a engendré Isaac, ce qui est expliqué dans le numéro 11 de Lumen Fidei. Donc foi par laquelle il a engendré Isaac. Alors, elle va se manifester cette foi, pas seulement dans son départ pour une terre nouvelle, mais aussi dans une autre dimension, qui est une dimension essentielle pour l'homme, qui n'est pas seulement la dimension de ses racines, de son attachement à sa terre. Cette autre dimension, c'est dans la paternité, dans la génération d'une vie nouvelle. Ainsi, et je reprends les termes de l'encyclique, la parole de Dieu, même si elle apporte avec elle nouveauté et surprise, vraiment il ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de partir, à l'annonce d'une descendance nombreuse, eh bien la parole de Dieu, elle ne se trouve en rien étrangère à l'expérience du patriarche. On va se rendre compte que Dieu sait ce qu'il veut, il sait qu'il s'adresse à un humain, et dans lequel il a inscrit cet appel à la paternité. Et donc Abraham va reconnaître un appel profond, inscrit depuis toujours au fond de son cœur, donc au fond de son être. Cet appel, c'est l'existence de l'homme, c'est-à-dire la volonté d'avoir une descendance. Et Dieu va insister à plusieurs reprises justement sur cette descendance qui sera nombreuse et qui va lui donner. Or, pour Abraham, croire en ce que Dieu va lui promettre, va demander une foi très profonde. En effet, à vue humaine, c'est complètement impossible. Alors, il y a trois raisons qu'on peut voir dans la Bible. Premièrement, Sarah, sa femme, est stérile. Et ça, on le sait tout de suite, dès le début de l'histoire d'Abraham, on présente la famille et on dit « sa femme était stérile ». Donc, et c'est en plus répété à plusieurs reprises. Deuxième raison qui montre qu'à vue humaine, c'est complètement impossible. Non seulement Sarah est stérile, mais en plus, elle est trop avancée en âge pour concevoir. Pensez donc, elle a 90 ans au moment où Dieu lui annonce, lui dit « ah, mais si, tu vas avoir une descendance ». Puis troisième raison, Abraham, lui aussi, ce n'est plus un jeune homme, il est très vieux. Il a 99 ans au moment où Dieu lui dit « non, tu auras une descendance ». Donc tout laisse croire vraiment que c'est complètement insensé de prétendre que Abraham et Sarah puissent donner la vie. Alors d'ailleurs, si on lit la Genèse à ce moment-là, on pourrait penser que justement Abraham va avoir un doute, qu'il ne va pas croire. Si on regarde la Genèse, au chapitre 17, le verset 27, Dieu lui dit « je te donnerai un fils par ta femme ». Réponse Abraham, il se mit à rire. Alors en fait, si on regarde de manière très profonde ce passage de la Genèse, ce n'est absolument pas un doute. Abraham ne va pas émettre un doute, c'est au contraire l'expression de sa foi. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce rire comme l'expression de la foi d'Abraham ? Tout simplement parce qu'en se mettant à rire, il va aussi se prosterner la face contre terre devant son Seigneur, ce qui est vraiment un geste d'adoration, le geste de sa soumission à Dieu. Il ne fait pas de ce rire un rire d'incrédulité. Deuxième raison aussi, pour bien montrer qu'Abraham ne doute absolument pas, mais qu'il croit, c'est que Sarah, elle, quand elle avait appris qu'elle allait mettre au monde un fils, à plus de 90 ans, elle s'était mise à rire. Et Dieu, au chapitre 18, lui avait reproché ce rire sceptique. Il lui avait dit « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ?» Or, ici, quand Abraham se met à rire, Dieu ne désapprouve pas son rire. Donc, il n'a pas la même réaction que Sarah. Et puis, troisième point qui montre que ce rire d'Abraham n'est pas un rire de dérision, un rire d'incrédulité, c'est qu'il va obéir tout de suite à ce que va lui demander Dieu. Dieu lui a dit « Je te donne une descendance et j'établis avec toi une alliance ». Et la manifestation de cette alliance, ce sera la circoncision. Eh bien, le jour même, il fait circoncire tous les hommes de sa maison, ce qui montre bien qu'il croit complètement en tout ce que Dieu lui a dit. Donc, c'est vraiment ainsi un rire qui n'est pas un manque de confiance. Saint Augustin le définit au contraire. Il l'exprime en disant « C'est la joie de qui admire et non défiance de qui doute ». D'ailleurs, le nom d'Isaac, dans son étymologie, ça fait référence à ce rire. C'est le rire, justement, de celui qui voit que Dieu lui est favorable, que Dieu a pris en compte, sa faiblesse, son humanité, et que ce fils sera toute sa joie. Donc, vraiment, dans cette promesse de Dieu, Abraham a manifesté ici toute sa foi, et que sa foi a vraiment été grande. Contre toute espérance humaine. Et c'est ce que va souligner saint Paul dans sa lettre aux Romains en des termes très beaux pour exprimer cette foi d'Abraham. Alors je vous lis ce passage avec des expressions qu'on peut retrouver, qu'on peut reprendre pour manifester la foi. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit « telle sera ta descendance ». C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Donc vraiment, saint Paul, dans ce petit passage, avec plusieurs expressions, il glorifie la foi si profonde d'Abraham. Donc ce que je vous ai cité, c'était dans le chapitre 4, les versets 18 à 22. Mais dans cette foi d'Abraham, on peut voir quelque chose de beaucoup plus large, qui ne concerne pas seulement sa propre vie. C'est pas seulement Abraham qui va engendrer son fils. C'est beaucoup, quelque chose de beaucoup plus large qui nous révèle un aspect de Dieu. Et là, je reprends le numéro 11 de l'encyclique qui nous dit « La foi se rattache à la paternité de Dieu, de laquelle jaillit la création. Le Dieu qui appelle Abraham est le Dieu créateur, celui qui appelle le néant à l'existence. Ainsi, pour Abraham, La foi en Dieu éclaire les racines les plus profondes de son être et lui permet de reconnaître la source de bonté qui est à l'origine de toute chose et de confirmer que sa vie ne procède pas du néant ou du hasard, mais d'un appel et d'un amour personnel. Le Dieu mystérieux qu'il a appelé n'est pas un Dieu étranger, mais celui qui est l'origine de tout et qui soutient tout. Donc cette foi d'Abraham dans la paternité, elle nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand. Ben, c'est la foi dans le Dieu créateur qui est à l'origine de tout et qui va lui demander, dans un autre épisode de sa vie, eh bien, de, en quelque sorte, de lui offrir ce qu'il va posséder de plus cher, son fils Isaac. Et c'est le dernier point que nous allons voir ensemble concernant cette figure d'Abraham. Quatrième point, la foi très grande par laquelle il offrit son fils Isaac. Et on va suivre aussi l'article 11 de Lumen Fidei. Eh bien, cet épisode, c'est vraiment le drame intime d'Abraham. C'est l'épisode qui nous est le plus connu, qui fait de ce patriarche vraiment une figure attachante, très émouvante. Et on va voir comment cette foi va se manifester. Quand on regarde le chapitre 22 de la Genèse, dans lequel ce passage, cet événement est décrit, on rencontre cette première phrase. « Il arriva que Dieu éprouva Abraham », verset 1. Alors on pourrait se dire, ben quand même, Dieu, il va se mettre à le tenter. Mais il ne va pas le faire comme le diable qui tente par exemple Jésus dans le désert. Il ne va pas vouloir l'induire pour le mal, il ne veut pas le faire tomber dans le péché. Dieu ne demande pas ça pour l'homme. Il ne va pas aussi le tenter comme pourrait le faire un homme pour un autre homme, pour savoir un petit peu voilà, comment est-ce qu'il va réagir, comment est-ce qu'il va se conduire. Ben non, Dieu, il sait tout, il sait ce qu'on a dans le cœur. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu éprouve Abraham? Eh bien, en fait, c'est pour qu'il puisse se connaître à lui-même, pour qu'il puisse vraiment comprendre quelle est sa foi, et qu'on puisse aussi, nous, le connaître, parce qu'il va nous être donné en modèle, en exemple, en étant justement ce père du peuple d'Israël. En fait, il va être tenté pour pénétrer dans le plus intime de son cœur, et pour qu'après avoir touché le fond de la faiblesse humaine, le fond de la faiblesse de son père, de ce père qui va devoir livrer son fils, eh bien, il puisse y trouver toute la force de la foi, de la force de la foi en Dieu, de la grâce divine qui va lui permettre de se déployer dans sa faiblesse. En effet, Dieu va l'éprouver dans ce qu'il a de plus cher. Et quand il va le lui demander, Dieu va vraiment insister sur ce point. Au verset 2, il va lui dire « Prends ton fils ». Donc ce fils qui est le fils de la promesse, c'est celui qui l'attendait. « Prends ton fils, ton unique », il insiste, « que tu chéris, Isaac ». Et donc Dieu, il sait parfaitement ce qu'il est en train de lui demander. Il n'y a pas de quelque chose de plus précieux pour Abraham que son fils Isaac. « Et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai ». Donc Dieu, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande la mort de son fils, et l'holocauste, c'est le fait de brûler la victime, il ne faut qu'il n'en reste plus rien. Alors Abraham, devant cet appel de Dieu, il ne tergiverse pas. Dans la Bible, il n'y a pas d'objection, on n'en voit pas. Alors tout semble contradictoire avec la promesse que Dieu lui avait faite d'une descendance, il obéit aussitôt. Alors nous, au contraire, eh bien, on pourrait émettre des objections, on pourrait nous scandaliser, on pourrait avoir du mal à comprendre, et on pourrait émettre deux types d'objections. Alors la première, qui concerne Dieu, mais comment Dieu peut-il induire Abraham à mal faire en lui ordonnant de tuer un innocent, et qui plus est son propre fils? Alors pour saint Thomas d'Aquin, Dieu qui a autorité sur la vie et il a autorité sur la vie et la mort, on pourrait dire donc qu'il pourrait faire un petit peu ce qu'il veut, mais c'est surtout le fait, ne pas oublier que c'est un Dieu qui est toute bonté. Et que derrière cette demande, ce n'est absolument pas un sacrifice humain comme il pouvait en exister à l'époque, dans d'autres cultes païens, parce que Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, il va refuser ces monstruosités. Il va demander justement à Israël, non, tu ne donneras pas tes fils aux dieux païens, voilà ce qu'on appelle les Molochs, tu ne les donneras pas. Donc c'est un ordre qui ne peut sembler barbare qu'à une lecture superficielle, qu'à une première lecture. Donc voilà la première objection. Deuxième objection qui concerne Abraham. Ben quand même, ça ne peut pas être un acte de foi ce qu'il fait, c'est de l'aveuglement. C'est un père complètement inconscient qui n'aime pas son fils et qui, on peut même dire, c'est de la folie. Eh bien, on va reprendre ce terme de folie. Et on va se dire que oui, c'est la folie, mais la folie d'un Dieu. Et ce Dieu dont Abraham est la figure, Dieu le Père. la folie d'un Dieu qui aime tellement sa créature qu'il va livrer lui son propre fils, son fils unique à la mort pour nous racheter. Et ce fils unique, ben, dont Isaac est la figure, c'est le Christ. Et quand on lit cet épisode dans la Genèse, alors rapidement, on peut faire un parallèle justement entre Isaac et le Christ. Isaac, il obéit à son père, il ne va pas rechigner, comme le Christ qui fait la volonté de son père. Il va y avoir 3 jours de marche pour aller vers cette montagne. Donc 3 jours entre la vie et la mort, ben, qui font référence aux 3 jours au tombeau. Il va y avoir le fait que Isaac porte sur son dos le bois du sacrifice, de même que le Christ portera le bois de sa croix. Et le fait qu'il va être immolé sur une montagne, de même que le Christ sera immolé sur le mont du Golgotha. Donc vraiment, dans cet épisode, eh ben, ça dépasse la figure d'Abraham, la figure de ce père, pour atteindre le dessein de Dieu qui va se donner, se livrer pour nous. Et la grande épreuve de la foi d'Abraham, je reprends le numéro 11, le sacrifice de son fils Isaac, montrera jusqu'à quel point cet amour de Dieu est capable de garantir la vie, même au-delà de la mort. En effet, la parole qui a été capable de susciter un fils, dans son corps comme mort et dans le sein mort de la stérile Sarah, cette parole qui lui a donné la vie, eh bien, elle sera aussi capable de garantir la promesse d'un avenir au-delà de toute menace ou de tout danger. Et là, je vais prendre un verset de la lettre aux Hébreux, en parlant d'Abraham qui nous dit « Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts ». Donc cette foi d'Abraham, ben, c'est la foi dans le Dieu tout-puissant, et ça va être le cas. Isaac, en quelque sorte, il va retrouver la vie, parce que Dieu ne lui demande pas ce sacrifice humain, qui serait complètement inconcevable, en quelque sorte. Il va envoyer un ange qui va arrêter le bras d'Abraham au moment où il prenait le couteau pour immoler son fils. L'ange va lui dire « Non, non, ne fais pas ça ». À la place, il va immoler une victime, un bélier, qui s'était pris les cornes dans un buisson. Et ainsi, en croyant tout perdre, en croyant vraiment perdre tout ce qu'il avait de plus cher, eh bien, dans la foi, Abraham a finalement tout trouvé. Et sa foi, dans cet épisode, elle a été purifiée pour se rapprocher d'un Dieu bienveillant qui prend soin de nous. Alors, qui prendra soin de nous jusqu'au point, justement, de nous livrer son fils. Et c'est alors qu'il va recevoir sa récompense. Dieu lui dit... chapitre 22, versets 16 à 17, « Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. » Et cette descendance, cette promesse ici, elle ne concerne pas seulement la descendance charnelle d'Abraham, le fait qu'il va avoir un fils, qu'il va aussi avoir des fils, et qu'on va avoir comme ça toute une génération. Elle va bien plus loin, cette promesse, et elle nous concerne, nous tous. Elle fait allusion au peuple des croyants, c'est-à-dire à tous ceux qui vont pas seulement imiter la foi d'Abraham, mais qui vont en vivre, qui vont y participer, comme par contagion. Le oui qu'Abraham a donné à Dieu, eh bien, comme dans la communion des saints, nous en vivons tous, nous y participons, nous-mêmes, et nous, justement, c'est une sorte de contagion de foi. Et donc, c'est une foi si profonde qu'elle a fait communier au don de l'amour paternel de Dieu. Et en cela, Abraham, il est le modèle de la Vierge Marie. On en parlera à la fin de l'étude de l'encyclique. Car la Vierge Marie, elle sera la réalisation la plus parfaite de cette foi. Donc, Abraham, il mérite vraiment d'être appelé notre Père à tous. Notre Père à tous, c'est une expression qu'on trouve chez saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 4. Et pourquoi c'est notre Père à tous? Parce que notre foi est une participation à sa foi. Et bien, c'est ce que nous allons voir à présent dans cette deuxième partie. Dans la foi des descendants, dans la foi des croyants, la foi d'Israël, comment cela va se manifester? Donc la foi d'Israël, cela correspond au numéro 12 à 14 de l'encyclique. Alors, on avait débuté avec l'image de la route que l'on va suivre, la route qu'a suivi Abraham, et que va suivre aussi tout le peuple hébreu pendant l'Ancien Testament, avec Dieu qui va lui demander plusieurs choses. Donc, ce peuple qui va parcourir une route qui l'amènera progressivement à mieux connaître Dieu. Alors, cette route, bien sûr, elle sera marquée par des obstacles, par des chemins de traverse qui se révéleront parfois aboutir à une impasse, par des marches en arrière. Et tout cela, ça sera la conséquence de l'infidélité du peuple de Dieu. Mais Dieu, lui, on va le voir, il va être fidèle à ses promesses Et il ne va pas cesser de marcher avec son peuple, de le guider, de l'encourager et de le remettre sur le droit chemin. Alors pour cela, il va éduquer son peuple pour qu'il puisse bien connaître cette foi en Dieu et pour qu'il n'ait pas des représentations trop humaines de Dieu. Des fois, on peut dire, voilà, je crois en Dieu, mais je crois dans un Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Et puis je me fais moi-même ma propre représentation de Dieu en fonction de ce qui me convient le mieux, de ce qui me pose le moins de problèmes. Au contraire, lui, Dieu va éduquer son peuple et il va justement insister sur plusieurs points qui vont former la foi d'Israël et qui sont autant d'enseignements pour nous tous. On ne va pas seulement se dire, voilà, c'est la foi de l'Ancien Testament. C'est aussi un enseignement pour notre foi aujourd'hui. Alors, on va voir ça en trois points. Alors, en suivant chacun des numéros de l'encyclique. Premièrement, on va voir que la foi d'Israël, c'est la foi en un Dieu qui veille fidèlement sur son peuple. Et ça, c'est le numéro 12. La foi en un Dieu qui veille fidèlement sur son peuple. Alors, on comprend donc à partir d'Abraham, Dieu a fait choix d'un peuple en lui disant, voilà, tu auras une descendance nombreuse et ça va être le peuple des croyants. Mais il faut d'abord bien comprendre ce choix que Dieu fait d'un peuple. Ben voilà, on aurait pu se dire pourquoi choisir un peuple. Finalement, Dieu aurait pu se manifester à chacun, dans toutes les parties du monde, à différentes époques, sans avoir besoin de choisir ce peuple élu. On pourrait même se dire, en choisissant le peuple issu d'Abraham, ben Dieu, il n'a pas méprisé le reste des hommes en les excluant du salut. Il n'a pas dit « je choisis ce peuple » et puis « allez, je ne donne pas le salut aux Chinois, je ne donne pas le salut aux Mexicains ». C'était pas absolument pas ça. Au contraire, Dieu veut le salut de tous. Alors pourquoi cette manière de procéder ? Eh bien, on peut se dire que c'est une constante dans le dessein de salut de Dieu. Si on regarde bien dans l'histoire du salut, c'est une constante de Dieu de choisir un homme, une femme, et puis de leur donner en quelque sorte une mission, de leur accorder des dons, non pas pour exclure les autres, mais pour que ces dons, au contraire, puissent bénéficier aux autres. Alors nous, on voit ça avec notre petite conception humaine. Mais pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi pas moi ? Ben Dieu, il ne voit pas comme ça. Il dit oui, lui ou elle, mais pour toi, pour vous, pour tout le monde. Et il n'a pas une petite conception égoïste de sa manière de donner les dons, justement, de faire son élection. On peut dire que c'est la même chose pour l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge, elle a une grâce particulière d'avoir été préservée du péché. Ben, ce n'est pas réservé pour cette petite personne. Nous, cette grâce, on en bénéficie tous. Et c'est la manière de procéder de Dieu. Je choisis, je donne, voilà, je fais le choix pour que cela rejaillisse sur tout le monde. Eh bien, c'est le choix que fait Dieu avec ce peuple élu. Il va en faire un peuple élu, non pas pour que le salut lui soit réservé à lui seul, mais parce que ce peuple, il va être la racine sur laquelle seront greffés bien tous ceux qui ne croient pas encore, tous les païens qui vont devenir croyants avec la révélation, révélation de Dieu. Et donc ce peuple, il n'est pas appelé à vivre en vase clos de manière définitive, mais il va être appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Donc c'est vraiment une figure de l'Église dans cette foi du peuple d'Israël. Donc quand on comprend cela, on va bien comprendre l'importance qu'il y avait à ce que ce peuple soit vraiment éduqué par Dieu, pour que sa foi demeure dans son intégrité. Et donc un des enseignements que Dieu va vouloir transmettre, ça va être le fait que ce peuple, c'est son peuple à lui, un peuple qu'il aime et qui va conduire, il va falloir que ce peuple accepte de se laisser guider par Dieu. Alors il y a différents épisodes dans l'Ancien Testament, le fait que Dieu va le faire sortir de l'esclavage d'Égypte, qu'il va lui donner l'alliance, qu'il va le faire hériter de la terre promise. Et ça, la foi d'Israël, c'est donc la foi en un Dieu qui veille sur son peuple, avec plusieurs images qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors on ne va pas pouvoir trop les voir en détail, mais il y a l'image de Dieu comme un père qui veille sur son enfant, dans Deutéronome par exemple, comme un époux qui aime son épouse même si elle peut lui être infidèle, comme un Dieu qui a des entrailles de mère pour son peuple. Donc voilà l'importance, cette grande foi dans un Dieu qui veille sur son peuple. Et de cela découle, on va dire, la reconnaissance d'Israël devant tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Eh bien, la confession de foi d'Israël, elle va se développer comme un récit des bienfaits de Dieu, comme un récit que le peuple transmet de génération en génération. Et ça, c'est très important dans le culte. On va récapituler, on va redire ce que Dieu a fait. On va rappeler, oui, tout ce qu'il a pu, tous ses bienfaits. On le voit dans les psaumes, on le voit dans la prière, dans les prières d'Israël. Donc, premier point. Deuxième point, c'est le numéro 10 de l'encyclique. La foi d'Israël, c'est la foi en un Dieu unique. Et ça, c'est un des points sur lequel Dieu insiste le plus tout au long de l'Ancien Testament. C'est la constante. Il va devoir faire comprendre à un peuple qui a la nuque raide, c'est l'accusation que lui lance souvent Dieu, un peuple qui a la nuque raide, ça veut dire qu'il a du mal à comprendre, qu'il ne veut pas vraiment se soumettre, qu'il est le Dieu unique. Alors que lui, Israël, va être tenté à de nombreuses reprises par l'idolâtrie. Il va se forger de faux dieux, il va adorer des idoles. Et donc on comprend mieux, en quelque sorte, pourquoi Dieu a voulu mettre ce peuple à part. Eh bien, c'est pour préserver sa foi. Un peuple qui était entouré par de multiples peuples aux religions polythéistes, Dieu lui a dit « Moi, je vais te séparer des autres pour que tu gardes ta foi de manière intègre, la foi dans le Dieu unique, et ce sera cette foi-là qui sera transmise. » Mais pourquoi cette tentation d'idolâtrie ? Dans le numéro 13 de l'encyclique, on explique cela par le fait que ce Dieu unique, c'est le Dieu qui nous dépasse, c'est le Très-Haut, celui que nul ne peut voir sans mourir. Or, le peuple, ça lui est un petit peu difficile. Il ne va pas supporter le mystère du visage divin caché. Il ne va pas supporter le temps de l'attente avant de voir ce Dieu dans l'éternité. Donc, la foi, elle demande de renoncer à la possession immédiate. Or, il va choisir souvent, à de nombreuses reprises, l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on va se forger des idoles dont on va pouvoir fixer le visage. Elles sont faciles à regarder, à contempler. Et puis, elles sont faciles à faire. C'est sécurisant. L'idole, on la met dans un coin, voilà, on la regarde. Elle a une bouche et elle ne parle pas. C'est ce que dit le psaume 115. Ah, comme ça, on est tranquille. Hein. Elle ne va pas nous demander de quitter notre pays, de partir, de se convertir. C'est beaucoup plus simple. On adore l'idole et on continue sa petite vie bien tranquille. Non, la foi dans le Dieu unique, ce n'est pas ça. C'est le fait qu'on va vouloir mettre Dieu au centre de sa propre vie. Et non pas nous-mêmes. Non pas nous-mêmes avec nos passions, avec tout ce qu'il peut y avoir d'inconstant et d'éphémère en nous. Au contraire, on va choisir la stabilité et on va choisir la route unique, non pas l'impasse, non pas le labyrinthe, la route qui mène vers le Dieu unique. Donc ça, bien sûr, c'est pas forcément toujours facile, parce que ça concernait pas seulement le peuple d'Israël, mais ça nous concerne nous tous. Ça nous demande une conversion, une rupture avec toutes nos idoles, notre moi, nos passions, nos centres d'intérêt qui prennent trop de place, et qui font que Dieu n'est plus à la première place, mais que des fois on peut le mettre de côté. Donc voilà cet enseignement sur la foi d'Israël, ce deuxième point, la foi en un Dieu unique. Et dernier point que nous allons aborder, alors c'est la foi en un Dieu qui va passer par l'homme pour se révéler. C'est le numéro 14 de l'encyclique. Alors ça rejoint le fait qu'on ne se sauve pas tout seul, un petit peu égoïstement dans son coin, voilà, je fais mon propre salut par moi-même, et puis non, on a besoin des autres. On va le voir avec la figure de Moïse, qui parle avec Dieu sur le mont Sinaï, et qui rapporte à tout le peuple la volonté du Seigneur. Et cette figure de Moïse, le médiateur, ça va être la figure de l'unique médiateur que nous allons avoir, le Christ. Et le fait d'avoir justement ce médiateur, de passer de cette manière-là, ça va être un ferment d'unité. En effet, dans l'encyclique, nous avons cette phrase « L'acte de foi de chacun s'insère dans celui d'une communauté, dans le « nous » commun du peuple ». Qui, dans la foi, est comme un seul homme. Donc la médiation ne devient pas ici un obstacle, mais une ouverture. C'est dans la rencontre avec les autres que le regard s'ouvre à une vérité plus grande que nous-mêmes. Et en quelque sorte, fait partie de la dignité de l'homme, de poser des actes de confiance, de faire confiance aux autres. C'est Frère Clément-Marie qui nous en a parlé hier dans sa présentation. Pour grandir en relation, Dieu nous demande aussi un petit peu la même chose, faire confiance dans ceux qu'il a pu choisir et par lesquels il va nous transmettre, faire nous approfondir son message. Alors aujourd'hui, on peut dire que ça peut être la figure du pape. Mais ça nous demande de l'humilité. Importance de l'humilité pour cela. Il ne faut pas avoir une conception individualiste et limitée de la foi. Mais au contraire, c'est ce savoir partagé qui est le savoir propre de l'amour. Donc accepter de ne pas tout contrôler, une certaine dépossession. Donc voilà les trois points qu'on pouvait mettre en évidence dans cette foi, pour, dans cette foi du peuple d'Israël. Alors pour conclure, ben tout simplement en une seule phrase, on a récapitulé un petit peu donc cette foi d'Abraham, cette grande foi qui est la naissance, l'origine de la foi des croyants, de la foi du peuple d'Israël. C'est pas une foi qui s'achève comme ça et qui... Non, non. C'est une foi qui va trouver toute sa plénitude dans le Christ, notre Sauveur, et qui va prendre notre condition humaine pour nous apporter le visage de Dieu. Et donc cette particularité de la foi chrétienne, avec la place que nous mettons au centre, en mettant au centre Jésus, eh bien c'est ce que nous allons aborder, ce que nous verrons tout à l'heure après la messe.